RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et l'Indonésie. L'arabie suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons de la province de Java West. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La coopération entre le Japon et l'ASEAN vise également à surmonter les problèmes dans la région. Stratégie de l'Agence de développement et de renouvellement du langage pour internaliser la langue indonésienne. L'Université de la Défense augmente la coopération internationale pour devenir une université de classe mondiale. Selon le ministre des Transports, le port de Pelabuhan Ratu va fonctionner de manière optimale en 2019. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La coopération entre le Japon et l'ASEAN se renforce. Ce renforcement peut être prouvé par l'amélioration de la coopération entre le Japon et l'ASEAN dans le domaine politique, économique et socio-culturel, même de la sécurité dans la région qui devient la mise au point pour encourager la prospérité de la communauté mondiale. C'est ce qu'a affirmé Mme Dewi Fortuna Anwar, un chercheur senior politique de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, au symposium sur le 45e anniversaire de coopération Japon-ASEAN à l'auditorium de LIPI à Jakarta mercredi. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'Asie-Pacifique, notamment l'Asie de l'Est, qui est le centre de la croissance économique rapide et des préoccupations comme la question nord-coréenne, le conflit de la mer de Chine méridionale et l'Asie du Nord, à savoir la région de la mer de Chine méridionale. Le chercheur de la politique internationale de l'Université de Keio au Japon, Yuichi Hosoya, à la voix de l'Indonésie à Jakarta, a déclaré que la Chine avait le rôle important de construire la zone. Par conséquent, la coopération entre le Japon et l'ASEAN peut être encouragée en construisant un partenariat et une connectivité avec la Chine, si bien qu'il peut fournir des avantages pour les pays concernés. L'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie a réorganisé l'activité d'orientation technique d'actualisation des compétences linguistiques pour les gens des médias. Cette activité se déroule dans deux jours, du 3 au 4 avril 2018 à Jakarta. L'événement a été officiellement ouvert par le chef du Centre de développement de l'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture, Gufran Ali Ibrahim. Il a déclaré que l'envoi de professeurs d'Indonésie à l'étranger était une stratégie pour internationaliser la langue indonésienne.
Salah satu jalan menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah mengirimkan.
Une façon internationaliser la langue indonésienne est d'envoyer des enseignants de BIPA ou Indonesian for Foreign Speaker à l'étranger, et cela est en grande partie basé sur leurs demandes, les pays, l'université, institutions, etc. C'est l'une des principales stratégies pour internationaliser la langue indonésienne, qui peut être la langue internationale et probablement la septième langue à l'ONU. Il a également ajouté que l'Agence de développement et de renouvellement du langage a essayé de faire de la langue indonésienne comme la septième langue des Nations Unies. Mais cela ne peut pas être fait seul par l'Agence de la langue. Toutes les composantes de cette nation doivent travailler activement pour le réaliser. L'Université de défense de l'Indonésie, sous les auspices du ministère de la Défense de la République d'Indonésie, continue à augmenter la coopération avec des universités étrangères pour devenir une université de classe mondiale. Cela a été déclaré par le recteur de l'Université de la Défense, le général Yudi Swastanto, lors d'une réunion avec les médias à l'Université de la Défense Sentul Bogor, Jawa West, jeudi. Selon lui, l'Université de la Défense est l'une des universités qui organise le programme d'études supérieures pour les membres des TNI et la société civile. Nous allons donc en 2024 devenir une université de classe mondiale. Nous construisons une coopération avec Naval Postgraduate, l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, en Chine, en Corée, aux Philippines, au Japon. Et alors, il y a des coopérations internationales avec des universités étrangères. Le général Yudi Swastanto a également déclaré que l'Université de la Défense de l'Indonésie a ouvert un programme Strata 3 dans le domaine de la gestion de la défense en juin 2018. Selon lui, basé sur l'exigence administrative, l'Université de la Défense a déjà qualifié le programme S3 pour le domaine de la gestion de la défense, dont l'un est la disponibilité des ressources humaines de 13 professeurs tels que le 6e président Susilo Bambang Yudhoyono, l'ancien ministre de la Défense Purnomo Yusgiantoro et Salim Said, y compris d'autres observateurs de la défense. Le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, a affirmé que Pelabuhan Ratu ou le port de Ratu à Sukabumi, Jawa West, pouvait fonctionner de manière optimale en 2019. Pelabuhan Ratu devrait faciliter la connexion à Jakarta parce que la livraison des récoltes des produits miniers et d'autres produits utilisera les barrages des Pelabuhan Ratu. Il a déclaré que non seulement pour faciliter la connectivité, Pelabuhan Ratu sera également concentré pour devenir un port touristique le week-end, surtout avec le site touristique Geopark Ciletuh qui peut être atteint par le bateau pendant 30 minutes. Par conséquent, il a demandé au chef du département local des transports, en coopération avec le chef de tourisme local, de recueillir les parties prenantes du tourisme pour discuter de Pelabuhan Ratu. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, le plan de relocation des réfugiés ethniques rohingyas. Le Bangladesh a le projet de mettre environ 100 000 rohingyas sur une île éloignée à partir de juin 2008. Le plan a été transmis par le secrétaire de gestion des catastrophes du Bangladesh, mercredi aux Nations Unies à Dhaka, est devenu un effort bangladais pour reloger les Rohingyas qui peuplaient la zone du Cox Bazar, un abri temporaire des groupes ethniques qui font fui le Myanmar après le conflit en 2017. Le Bangladesh doute des efforts déployés par le Myanmar pour accepter de nouveau des Rohingyas car CEPE ne vérifie que 300 dossiers des milliers de dossiers de réfugiés. Le Myanmar fait valoir que dans le dossier donné par le Bangladesh, il y a le dossier de 3 terroristes. Avec ce placement, le Bangladesh doit encore accueillir 700 000 réfugiés autour de la frontière. Mais le plan de placement lui-même est considéré comme n'ayant pas résolu le problème. Actuellement, les réfugiés vivent dans un environnement défavorable. La marine bangladaise établira environ 1400 abris prêts à être occupés à la fin de mai. Cette relocation elle-même est effectuée sur une base volontaire. Si à Cox Bazar, leur sort est également difficile en raison de la maladie sous-jacente à la saison des pluies en juin prochain, mais leur emplacement sur l'île est également un problème, comme l'environnement qui sera habité est également susceptible d'être frappé par les catastrophes des cyclones tropicaux. Plus tôt en février, le Myanmar avait accepté d'accueillir 6 000 réfugiés rakhinis dans la région de Tombrou qui n'était pas centrée sur l'homme. Le Bangladesh fait valoir que les réfugiés dans cette zone n'ont pas été considérés comme des réfugiés et que le Myanmar a convenu de les renvoyer. Mais le traité reste d'accord, il n'y a aucune garantie de sécurité et les Rohingyas ont encore peur de revenir. Nous ne nous attendons pas à ce que les Rohingyas restent bloqués dans des endroits impropres à l'humanité. Nous ne devons pas laisser le destin des Rohingyas dans une situation incertaine. L'Indonésie est préoccupée cela en fournissant une aide humanitaire. Le président Joko Widodo a directement vu la situation de l'ethnie Rohingya lors d'une visite au Bangladesh il y a quelque temps. Maintenant, tout ce que nous avons à faire ensemble est de continuer le processus de retour des réfugiés. Le Myanmar doit également être prêt à s'ouvrir et à fournir des garanties de sécurité que les Rohingyas qui reviennent se voient accorder leur droit de vie en tant que citoyens. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 6 avril. Premièrement, le 6 avril 1917, les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Les États-Unis ne voulaient pas participer à la Première Guerre mondiale. Cependant, en raison du naufrage du navire RMS Lusitania par une torpille allemande le 7 mai 1915 et de la divulgation du télégramme de Zimmermann, à savoir un message allemand invitant le Mexique à attaquer conjointement les États-Unis ont déclaré guerre contre l'Allemagne le 6 avril 1917. Les États-Unis ont aidé les Alliés et la guerre a pris fin un an plus tard. Le 6 avril 1945, l'action kamikaze des soldats japonais commence. Le 6 avril 1945, dans la Seconde Guerre mondiale, les avions kamikaze japonais ont commencé un assaut mortel sur les porte-avions américains. À cette époque, des pilotes volontaires japonais ont écrasé des bombardiers chargés de bombes qu'ils conduisaient. Cette action suicidaire héroïque inflige d'énormes pertes aux États-Unis. Cependant, en raison de l'énorme force des Alliés, l'attaque des troupes japonaises qui ont à l'époque rejoint l'Allemand et l'Italien était finalement endigué. L'armée japonaise a même été repoussée de la région est-asiatique qu'elle occupait auparavant. Le 6 avril 1994, l'assassinat des présidents rwandais et burundais a marqué le début du génocide rwandais. Le 6 avril 1994, l'avion embarqué par le président rwandais Juvenal Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntarimira, au moment du débarquement, a été abattu par un groupe d'extrémistes et a tué des passagers dans l'avion, y compris le président rwandais et l'ethnie Hutu et le président burundais. À la suite de cela, des affrontements sanglants entre deux grandes tribus au Rwanda, les tribus Hutu et Tutsi, ont commencé. Le groupe extrémiste Hutu a accusé les Tutsi d'être derrière l'incident. La tribu Hutu a massacré sadiquement les tribus Tutsi et Hutu, tuant plus de 800 000 personnes en 100 jours au Rwanda. À la suite de ce massacre, 2 millions de Rwandais ont été contraints de fuir vers un autre endroit plus sûr. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Secrétaire, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre La feuille de route Making Indonesia 4.0 est lancée officiellement. Le président Joko Widodo a lancé une feuille de route de la stratégie de l'Indonésie dans la mise en œuvre de l'entrée dans l'industrie 4.0 initiée par le ministère de l'Industrie sous le nom Making Indonesia 4.0. Making Indonesia 4.0 a été lancé coïncidant avec l'ouverture du sommet industriel de l'Indonésie 2018 à Jakarta Convention Center à Senayan dans le centre de Jakarta mercredi matin. Dans son discours lors de l'événement, le président Joko Widodo a déclaré que la révolution industrielle 4.0 est actuellement en train de transformer le monde. L'Indonésie, comme les autres pays, doit être prête et anticiper ce grand changement. Le président Joko Widodo a décrit la révolution de l'industrie 4.0 se composant d'une combinaison de cloud computing avec l'Internet mobile. La fusion tout à fait une nouvelle génération de l'industrie robotique comme les drones, les véhicules autonomes qui sont capables de se conduire sans être pilotés par des humains. Le président Joko Widodo cite des recherches menées par le McKinsey Global Institute en 2015 selon lesquelles l'impact de la révolution industrielle 4.0 serait 3000 fois plus dévastateur que la première révolution industrielle du 19e siècle. McKinsey déclare que la vitesse de ce changement serait 10 fois plus rapide. Cependant, le président Jokowi n'est pas convaincu des inquiétudes de beaucoup de partis qui prévoient que la révolution industrielle perdra beaucoup d'emplois. Au lieu de cela, il croit que la révolution industrielle 4.0 fournira beaucoup plus de nouveaux emplois que le nombre d'emplois perdus. Dans la feuille de route Making Indonesia 4.0 qui a été lancée, le gouvernement a un programme pour réaliser l'ouverture de 10 millions de nouveaux emplois en 2030. L'industrie indonésienne devrait alors être en mesure de mettre en œuvre l'industrie 4.0 et de concurrencer avec les autres pays. Le ministre de l'Industrie de l'Indonésie, Airlangga Hartarto, a déclaré que pour l'application initiale d'industrie 4.0, l'Indonésie se concentrerait sur 5 secteurs manufacturiers, à savoir l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie du textile et des vêtements, l'industrie automobile, l'industrie chimique et l'électronique. Selon Airlangga, ce secteur est sélectionné après une évaluation de l'impact économique et des critères de faisabilité de mise en œuvre couvrant la taille du PIB, le commerce, les impacts potentiels sur les autres industries, la taille de l'investissement et la vitesse de pénétration du marché. En outre, Making Indonesia 4.0 contient des initiatives nationales intersectorielles visant à accélérer le développement de l'industrie manufacturière en Indonésie. Le lancement de la feuille de route Making Indonesia 4.0 a été assisté par les dirigeants et les membres du Parlement, Darmin Nasution, ministre coordinateur d'économie, le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto, Komlot, le secrétaire du cabinet Pramono Anung, les ambassadeurs des pays amis, les régions et les maires, les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, des représentants d'associations industrielles et des hommes d'affaires. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La coopération entre le Japon et l'ASEAN vise également à surmonter les problèmes dans la région. Stratégie de l'Agence de développement et de renouvellement du langage pour internaliser la langue indonésienne. L'Université de la Défense augmente la coopération internationale pour devenir une université de classe mondiale. Selon le ministre des Transports, le port de Pelabuhan Ratu va fonctionner de manière optimale en 2019. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La coopération entre le Japon et l'ASEAN se renforce. Ce renforcement peut être prouvé par l'amélioration de la coopération entre le Japon et l'ASEAN dans le domaine politique, économique et socio-culturel, même de la sécurité dans la région qui devient la mise au point pour encourager la prospérité de la communauté mondiale. C'est ce qu'a affirmé Madame Dewi Fortuna Anwar, un chercheur senior politique de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, au symposium sur le 45e anniversaire de coopération Japon-ASEAN à l'auditorium de LIPI à Jakarta mercredi. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'Asie-Pacifique, notamment l'Asie de l'Est, qui est le centre de la croissance économique rapide et des préoccupations comme la question nord-coréenne, le conflit de la mer de Chine méridionale et l'Asie du Nord, à savoir la région de la mer de Chine méridionale. Le chercheur de la politique internationale de l'Université de Keio au Japon, Yuichi Hosoya, à la voix de l'Indonésie à Jakarta, a déclaré que la Chine avait le rôle important de construire la zone. Par conséquent, la coopération entre le Japon et l'ASEAN peut être encouragée en construisant un partenariat et une connectivité avec la Chine, si bien qu'il peut fournir des avantages pour les pays concernés. L'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie a réorganisé l'activité d'orientation technique d'actualisation des compétences linguistiques pour les gens des médias. Cette activité se déroule dans deux jours, du 3 au 4 avril 2018 à Jakarta. L'événement a été officiellement ouvert par le chef du Centre de développement de l'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture, Gufran Ali Ibrahim. Il a déclaré que l'envoi de professeurs d'Indonésie à l'étranger était une stratégie pour internationaliser la langue indonésienne.
Salah satu jalan menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah mengirimkan.
Une façon internationaliser la langue indonésienne est d'envoyer des enseignants de BIPA ou Indonesian for Foreign Speaker à l'étranger, et cela est en grande partie basé sur leur demande. Les pays, l'université, institutions, etc. C'est l'une des principales stratégies pour internationaliser la langue indonésienne, qui peut être la langue internationale et probablement la 7e langue à l'ONU. Il a également ajouté que l'Agence de développement et de renouvellement du langage a essayé de faire de la langue indonésienne comme la 7e langue des Nations Unies. Mais cela ne peut pas être fait seul par l'agent de la langue. Toutes les composantes de cette nation doivent travailler activement pour le réaliser.
L'Université de défense de l'Indonésie, sous les auspices du ministère de la Défense de la République d'Indonésie, continue à augmenter la coopération avec des universités étrangères pour devenir une université de classe mondiale. Cela a été déclaré par le recteur de l'Université de la Défense, le général Yudi Swastanto, lors d'une réunion avec les médias à l'Université de la Défense Sentul Bogor, Jawa West, jeudi. Selon lui, l'Université de la Défense est l'une des universités qui organise le programme d'études supérieures pour les membres des TNI et la société civile. Nous allons donc en 2024 devenir une université de classe mondiale. Nous construisons une coopération avec Naval Postgraduate, l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, en Chine, en Corée, aux Philippines, au Japon. Et alors, il y a des coopérations internationales avec des universités étrangères. Le général Yudi Swastanto a également déclaré que l'Université de la Défense de l'Indonésie a ouvert un programme Strata 3 dans le domaine de la gestion de la défense en juin 2018. Selon lui, basé sur l'exigence administrative, l'Université de la Défense a déjà qualifié le programme S3 pour le domaine de la gestion de la défense, dont l'un est la disponibilité des ressources humaines de 13 professeurs tels que le 6e président Susilo Bambang Yudhoyono, l'ancien ministre de la Défense Purnomo Yusgiantoro et Salim Said, y compris d'autres observateurs de la défense. Le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, a affirmé que Pelabuhan Ratu ou le port de Ratu à Sukabumi, Jawa West, pouvait fonctionner de manière optimale en 2019. Pelabuhan Ratu devrait faciliter la connexion à Jakarta parce que la livraison des récoltes des produits miniers et d'autres produits utilisera les barrages des Pelabuhan Ratu. Il a déclaré que non seulement pour faciliter la connectivité, Pelabuhan Ratu sera également concentré pour devenir un port touristique le week-end, surtout avec le site touristique Geopark Ciletuh qui peut être atteint par le bateau pendant 30 minutes. Par conséquent, il a demandé au chef du département local des transports, en coopération avec le chef de tourisme local, de recueillir les parties prenantes du tourisme pour discuter de Pelabuhan Ratu. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter le musée de Geopark Batur Kintamani, est un musée avec le premier concept de Geopark en Indonésie, précisément situé à Penelokan Kintamani, la régence de Bangli, l'île de Bali. Dans ce musée, les visiteurs peuvent mieux connaître l'histoire et le Geopark Dumong de Batur. Le musée est construit sur une superficie d'un hectare. Il est le centre d'information de Geopark, à la fois Geopark Batur et d'autres géoparcs dans ce pays. Le musée de Geopark Batur Kintamani possède une collection qui représente les trois piliers de géoparc, à savoir la biodiversité et la diversité culturelle. Ce nouveau concept d'un musée en Indonésie qui combine la nature, la culture, la flore et la faune locale en une seule unité.
La construction du musée Géoparc Batur a été réalisée après que le Géoparc du Mont Batur a été confirmé par l'UNESCO en tant que le réseau mondial des géoparcs le 20 septembre 2012. Il y a l'unicité dans ce géoparc qui n'est pas trouvée dans d'autres géoparcs, à savoir le Mont Batur possède deux caldeiras. Ce qui est spécial est que dans la caldeira 1 est formée la caldeira 2 et on estime que la caldeira du Mont Batur se forme après deux éruptions majeures et dans la caldeira 2 il y a aussi un lac en forme de croissant d'une longueur de 7,5 km et une largeur de 2,5 km et connu comme le lac de Batur. Le musée de Géoparc Batur possède deux étages. Au premier étage, il y a un hall principal avec une salle de présente la diversité géologique. Dans le hall principal, il y a un diorama du Mont de Batur. Le diorama étant présenté est une miniature du Mont de Batur et le lac de Batur. Au deuxième étage, il y a un espace de biodiversité, la diversité culturelle et l'espace auditorium. Dans l'auditorium, les visiteurs peuvent voir divers films éducatifs sur les volcans et les géoparcs. Au troisième étage, il y a une salle d'observation de l'activité du volcan de Batur. Observer des activités volcaniques peut être une expérience et augmenter les connaissances sur l'activité volcanique. Le musée présente une collection de géodiversité, d'exemples de produits d'éruption volcanique et quelques exemples d'autres volcans dans ce pays. Pour aller au musée Géoparc Batur Kintamani, vous avez besoin d'environ 2 heures. Si vous partez de Kuta, vous pouvez prendre un taxi ou bien louer un véhicule privé. L'horaire de visite au musée du lundi au jeudi, de 8h jusqu'à 16h. Samedi et dimanche, à 8h jusqu'à 14h. Le vendredi et les fêtes nationales sont fermées. Visiter le musée du Géoparc Batur peut être un moyen d'éducation en profitant de l'atmosphère fraîche à la hauteur des montagnes de la région de Kintamani. Vous pouvez également trouver quelques attractions touristiques autour de ce géoparc. La région de Kintamani est connue comme une destination touristique populaire sur l'île de Bali. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie sur le musée Géoparc Batur de Kintamani à Bali. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le Festival de l'alimentation du Bout 2018. Soyez toujours à l'écoute sur www.voynews.id. Le Festival de la nourriture Ubud, au plus connu avec Ubud Food Festival, ou UWF, se tiendra à nouveau exactement du 13 au 15 avril prochain. UWF elle-même existe depuis 2015. Ubud Food Festival cette année sera animé par divers événements tels que des séances de discussion, des démonstrations culinaires, des marchés alimentaires, des événements spéciaux, des ateliers, du voyage culinaire, des projections de films et des spectacles musicaux. Janet Deneuve, fondatrice et directrice du festival Ubud Food, a déclaré que le festival culinaire de trois jours présentera environ 100 conférencières experts dans le domaine culinaire de l'intérieur et de l'étranger. OWF 2018 sera assisté par des chefs, des entrepreneurs de restaurants, des agriculteurs, des entrepreneurs sociaux et des innovateurs. Le thème du festival d'alimentation d'Ubud qui sera soulevé cette année est Génération de l'innovation. Selon Janet Deneuve, ce thème est inspiré par les jeunes Indonésiens qui connaissent bien la technologie. Les visiteurs du festival peuvent découvrir les diverses innovations et les idées de conservation associées à l'industrie alimentaire indonésienne. Plus tard, non seulement limité à l'innovation autour de la nourriture elle-même, mais aussi des choses liées à la nourriture, comme l'emballage des produits à des applications sur le monde culinaire, Janet a dit, OWF célébrera la jeune génération d'Indonésie qui apporte maintenant beaucoup d'innovations dans l'industrie culinaire de l'Indonésie. Cependant, sans oublier ceux qui ont été pionniers et qui ont ouvert la voie à ces générations il y a longtemps. Ubud Food Festival en 2008 présentera 100 chefs célèbres et experts culinaires de l'Indonésie et de l'étranger. L'un des chefs experts culinaires de l'Indonésie est Siska Suitomo, ce pionnier événement cuisine qui a été confirmé à être présent pour la troisième fois et cuisineront des plats cuisinés maison typiques de l'Indonésie. En outre, il y a beaucoup d'autres noms nationaux de chefs qui seront présents à ce OWF comme chef Rindrin Marinka qui est présent souvent sur le spectacle à la télévision cuisine locale et internationale. Ensuite, il y a Andrian Ishak, un célèbre chef grâce à sa capacité à servir le menu moléculaire de la gastronomie. Pendant ce temps, sur la scène internationale, OWF invitera également des chefs qui ont remporté Michelin Star, à partir Rishi Nalendra, le premier chef de Sri Lanka qui a reçu un prix de Michelin pour son restaurant, Chik Baijol à Singapour. Deux autres chefs qui ont également remporté des prix de Michelin pour leur restaurant sont Sam Asbiet de White Grass à Singapour et Jun Lee de Soigne à Séoul, en Corée du Sud. Ils ont tous certainement présenteront leur plat aux visiteurs du WF 2018. Selon Janet Deneuve, il y a une nouvelle chose à l'OWF 2018, à savoir le café. Il y aura un laboratoire du café. Donc, plus tard, il y aura des producteurs de café de Bali et de Sumatra. Il y a aussi une démonstration de café de torréfaction. En outre, cette année, les stands de nourriture indonésienne seront plus nombreux que les années précédentes. Serviteurs, c'est à l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le thème du Festival de l'alimentation d'Ubud 2018. Nous nous retrouverons dans la prochaine édition de l'Indonésie en couleur pour ce soir avec d'autres thèmes intéressants. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons présenter des chansons de la province de Java West. Écoutons maintenant la première chanson intitulée Es Lilin, chantée par Fika. Voilà la chanson intitulée Eslilin chantée par Fika. Cette chanson soudanaise est accompagnée par la musique de Degung et a été chantée dans diverses autres langues comme en malais et japonais. Les paroles de la chanson racontent d'une femme qui se sent timide quand elle est approchée par un homme. Bien que le sens de la chanson semble simple, mais il contient un pantoun de soudanaise. La deuxième chanson de Javawes que nous allons présenter intitulée Bubui Bulan. Cette chanson est souvent chantée dans divers événements de la coutume de Javawes tels que le mariage et circoncision. Comme la chanson de Eslilin, Bubui Bulan est sous la forme de pantoun. Elle raconte le désir d'une personne pour son amant. Ce sentiment s'est approfondi quand elle avoue quelqu'un dont les yeux lui rappelaient à son amant. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées Bubui Bulan, chantées par Desi.
Bubui bulan sangrai
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter la rubrique musicale. Et cette fois, nous présentons des chansons de la province de Java West. On va écouter la chanson intitulée Eis, un appel qui vient du mot gelis qui signifie en sundanais belle. Dans les paroles de la chanson intitulée Eis, il s'agit d'un homme qui taquine et admire une fille qui s'appelle Eis. Cette chanson est habituellement chantée en duo par un homme et une femme. Chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée Eis chantée par Anga et Yanni. Bonne écoute.
Eis kedang ke gerang
pihatur naon anu diseja
hayu urang kakawin kawih pangdu gini hati
Ku lucu
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, pour terminer notre édition aujourd'hui, je vous donne une chanson intitulée Mojang Priangan. Cette chanson décrit une jeune femme de Mojang Priangan qui signifie la jeune femme de Priangan ou bien la jeune femme de Java West qui porte le vêtement de kebaya, qui s'habille simple, mais elle est si belle et douce. Écoutons maintenant une chanson intitulée Mojang Priangan, chantée par Angga Prawira. Bonne écoute et au revoir. C'était des chansons de la province de Java West. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9.5 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4S5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.